Bonjour à tous, mon nom est Sarah Edith Penney et je dirige le Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire, le RQESR. Il me fait plaisir de vous accueillir à ce programme sur l'hypertension pulmonaire avec notre expert, le docteur Steve Provencher, qui est pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'IUCPQ. Donc, cette trilogie de balado a été rendue disponible grâce à une subvention à l'éducation octroyée au RQSR par Merck Canada. À la fin du programme, les participants qui auront complété le questionnaire d'évaluation et qui auront réussi avec une note de plus de 70% se verront attribuer une attestation de réussite accompagnée de 0,1 USC qui correspond à une heure de formation continue accréditée. Sans plus tarder, je vous laisse écouter notre expert, le docteur Steve Provencher.
Très bien, mon nom est Steve Provencher. Je suis pneumologue à l'Institut cardio-pneumo de Québec, puis directeur de la clinique d'hypertension pulmonaire ici à l'Université Laval.
Voulez-vous nous parler des traitements de l'hypertension pulmonaire?
Donc, essentiellement, donc, si on y va encore une fois, dépendant du type d'hypertension pulmonaire, les traitements vont être très, très variés. Dans l'hypertension pulmonaire de groupe 1, donc la maladie de remodelage vasculaire, on a des artérioles, ces patients-là vont d'abord être traités avec des traitements qu'on dit génériques ou de base. Donc, si ces patients ont des signes d'insuffisance cardiaque droite avec édème, par exemple, on va traiter ces patients-là avec des diurétiques. Il va y avoir des traitements de base où est-ce qu'on va leur demander de faire attention avec une diète hyposodée. Éviter la grossesse, éviter des chirurgies majeures, éviter les séjours en altitude, par exemple. Donc, ce sont des traitements de base là, chez ces patients-là. Sinon, on va utiliser des médicaments qui vont agir sur le tonus des petits vaisseaux pulmonaires dans le but de relaxer les vaisseaux pulmonaires, puis idéalement renverser en partie le remodelage qui se fait à l'intérieur des vaisseaux pulmonaires. Donc, actuellement, on a au Canada, je dirais, 12-13 médicaments différents qui peuvent améliorer de façon souvent significative le remodelage vasculaire pulmonaire de ces patients-là. Et ça fait en sorte que chez les patients qui ont le premier type d'hypertension pulmonaire, la HTAP comme telle, on réussit nettement mieux qu'avant à améliorer les patients en termes de capacité à l'exercice, survie également. Donc, ce sont des patients qui ont une survie nettement plus prolongée qu'auparavant avec ces médicaments-là. Ultimement, encore une fois, dans l'hypertension pulmonaire de groupe 1, lorsque ces médicaments-là ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait et que la maladie évolue quand même, et chez les patients éligibles, bien, ultimement, la greffe pulmonaire peut être une option. Évidemment, c'est une option de dernier recours chez ces patients-là. L'autre catégorie d'hypertension pulmonaire pour laquelle les traitements sont vraiment efficaces, c'est l'hypertension pulmonaire de groupe 4, donc suite à des embolies pulmonaires, où est-ce que, en plus de l'anticoagulation à vie qui va être poursuivie chez ces patients-là, en plus des traitements génériques, là, avec parfois des diurétiques, oxygène chez les patients hypoxémiques, etc., bien, on va pouvoir considérer des interventions, soit médicamenteuses avec des médicaments, mais aussi, dans certains cas, une chirurgie qui va nous permettre d'aller retirer le matériel persistant au niveau des vaisseaux pulmonaires. Et dans certains cas, avec un cathéter pour dilater les vaisseaux qui sont obstrués ou en grande partie rétrécis par le matériel embolique. Donc, vraiment, c'est soit une combinaison de ces deux à trois traitements-là qui vont permettre d'améliorer de façon substantielle les patients qui ont une hypertension pulmonaire de groupe 4. Finalement, bien, pour les hypertensions pulmonaires de groupe 2 et 3, bien, donc en lien avec une maladie cardiaque gauche ou une maladie respiratoire, on n'a pas de traitement spécifique qui va venir jouer spécifiquement sur l'hypertension pulmonaire, si bien qu'on va se rabattre sur le traitement de la maladie de base. Donc, en insuffisance cardiaque gauche, on va optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque gauche. Même chose dans les maladies respiratoires, on va tenter d'optimiser la fonction pulmonaire. Chez les patients qui sont hypoxémiques, évidemment, bien, l'oxygénothérapie va évidemment prendre une place considérable dans le traitement de ces patients-là. Et pour l'ensemble de ces formes d'hypertension pulmonaire-là, que ce soit 1 à 4, si on veut, bien, en plus des traitements de base avec oxygène au besoin, etc., bien, Il y a la réadaptation cardio-respiratoire ou la réadaptation pulmonaire qui peut être une option également pour essayer de bonifier, d'améliorer la capacité à l'exercice des patients qui sont porteurs d'hypertension pulmonaire. Donc, il y a eu une période, il y a disons, plus de 10 ou 15 ans, où on craignait de faire de l'entraînement chez des patients qui avaient de l'hypertension pulmonaire parce que un des symptômes rares mais qui arrive à l'occasion de ces patients-là, c'est la syncope à l'exercice. Donc, il y a une époque où on craignait de faire la réadaptation chez ces patients-là. Maintenant, on sait que chez la plupart des patients, c'est sécuritaire et bénéfique également. Et donc, ça va faire partie des options de traitement chez les patients qui sont porteurs d'hypertension pulmonaire également, à l'exception des patients qui ont une forme très, très gravissime d'hypertension pulmonaire.
Est-ce qu'il y a des exercices ou des types de stratégies d'exercices qu'on peut favoriser?
En fait, dans les faits, ça a été quand même assez bien étudié, la réadaptation pulmonaire en hypertension pulmonaire, particulièrement dans les groupes 1 et 4, là, je vous dirais. Dans les faits, on ne sait pas exactement s'il y a certains patients qui en bénéficient plus que d'autres. On ne sait pas non plus quel est le meilleur type d'exercice à faire avec ces patients-là, s'il y a des types d'exercices qui sont plus bénéfiques, si bien qu'en général, on fait l'équivalent de ce qui est fait en insuffisance cardiaque gauche et en maladie respiratoire chronique. Pour réadapter ces patients-là, donc avec une composante d'enseignement, mais également d'entraînement aérobique, musculaire, etc. Chez les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque gauche et des maladies respiratoires, donc les hypertensions pulmonaires de groupe 2 et 3, il faut comprendre que dans les grandes études de réadaptation, par exemple en MPOC, bien, il y avait un sous-groupe de ces patients-là qui avaient de l'hypertension pulmonaire secondaire, c'est sûr. Il n'y a pas de signal qui suggère que les patients qui ont de l'hypertension pulmonaire de groupe 3 devraient être gérés de façon différente comparativement à un patient qui serait porteur d'une MPOC sans hypertension pulmonaire. Donc souvent, leur tolérance à l'effort va être moins grande, ils vont souvent être plus hypoxémiques, mais en termes de modalité d'entraînement, on n'a pas la notion qu'on devrait agir différemment avec ces patients-là.
Est-ce qu'il y a de la place pour l'oxygénothérapie dans l'arsenal de traitement?
À l'heure actuelle, on utilise les mêmes critères que chez les patients MPOC. La différence, que bien, ces patients-là ont d'emblée une hypertension pulmonaire. Donc, en théorie, à partir d'une PaO2 au gaz artériel inférieur à 60 mm de mercure, on a tendance à être assez à considérer certainement l'oxygénothérapie à domicile. Il faut comprendre quand même que ce sont des données, en fait, on a peu de données, c'est de l'extrapolation de ce qui est fait en MPOC. On a peu de données chez les patients porteurs d'hypertension pulmonaire, à savoir si on devrait être plus agressif. De façon générale, donc, on utilise les mêmes recommandations ou à peu près que dans les autres maladies respiratoires. Et chez les gens qui demeurent actifs, parce qu'il faut comprendre que l'HTAP, c'est souvent une maladie où les patients sont plus jeunes. Donc, il y a souvent des patients qui sont actifs. On va considérer assez favorablement l'oxygénothérapie de déambulation également chez des patients qui demeurent actifs, qui sortent de la maison également. L'autre circonstance où on va être assez agressif en termes d'oxygénothérapie, ce sont les patients qui sont dans un processus qui se dirigent vers la greffe pulmonaire, où on veut absolument maintenir ces patients-là avec un niveau d'activité physique significatif, favoriser l'entraînement. Et on va être assez agressif à ce moment-là pour l'oxygénothérapie de déambulation en plus de l'oxygénothérapie à domicile standard.